Les rencontres du magazine de l'ACFAS. Le présent dossier thématique du magazine s'intéresse à la recherche-création. Une pratique où la création est au cœur de la démarche et où un dialogue théorique s'instaure autour du processus, faisant appel aux catégories des autres disciplines, philosophie, sociologie, environnement ou autres. Conversation entre les deux co-rédactrices du dossier, les professeurs Samuel Ducrot-Henry de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et Lynn Hughes de l'Université Concordia.
Aline, justement, je me disais, puisque tu as fondé, en fait, ou co-fondé Hexagram, je me demande pourquoi la recherche-création? Qu'est-ce qui nous dirige, en fait, vers cette nouvelle approche disciplinaire depuis maintenant peut-être 20 ans?
Hexagram, c'était en 2000-2001, donc oui, presque. Je ne sais pas si... C'est moi qui ai écrit le texte pour la première subvention. Je ne sais pas si j'ai utilisé ce terme, je ne pense pas, je ne penserai pas. Mais évidemment, c'était vraiment une façon de faire entrer les gens, les universitaires, les professeurs d'université, qui sont des créateurs, des artistes principalement, mais de les faire entrer plus visiblement dans l'académie, à l'université, et aussi pour les conseils de recherche, c'est-à-dire de dire, mais nous aussi, on est universitaires, mais notre recherche consiste fondamentalement en la création avec un côté, si on veut, plus académique, mais ça ne paraît pas officiellement, formellement, nulle part. Donc, Hexagram, c'est de dire, nous on est là, et qu'est-ce qu'on fait? Mais aussi de dire, on travaille ensemble, on pourrait travailler plus ensemble, on pourrait mieux se connaître en travaillant ensemble, en parlant ensemble. Donc, je pense que c'était à partir de ça. Mais pour moi, le terme recherche-création, selon mon expérience personnelle, ça venait vraiment du FQRSC.
Oui.
Et de Louise Dandurand. Donc ça, c'était, c'était déjà là, je pense, en 2000.
Le terme était très utilisé,
tôt,
exactement.
Très tôt au Québec.
Le terme que vous aviez tous pensé à ce moment-là, quand ça a été fondé, Hexagram, c'était quoi exactement alors?
J'oublie pas si on a utilisé un terme. J'ai pas pensé à aller revoir ces documents-là, c'est tellement vieux.
Oui.
Mais, donc je ne sais pas si on a utilisé ce terme-là, mais c'était carrément ça, parce que la recherche-création, c'est quelque chose au Québec que, moi je pense, au début, c'était une manière de placer les artistes, les créateurs, par rapport au conseil de recherche, c'est-à-dire...
Une place légitime au sein de la recherche.
Exactement, oui. Et de dire si... là, on va prendre au sérieux le fait que les artistes enseignent au niveau universitaire. Pourquoi est-ce que leur pratique n'est pas représentée au conseil? Pourquoi est-ce qu'on n'y pense pas? Et comment on peut le faire?
Ça a toujours soulevé tout un débat, parce qu'en fait, justement, le fait de se retrouver au carrefour entre la recherche ou la création, qui peut être un débat à n'en plus finir, est-ce qu'on parle de recherche dans la création, pour la création? Est-ce que c'est le processus de recherche qui se fait quand on crée, ou inversement? Tous ces problèmes de définition font qu'on ne s'entend pas tous sur ce que c'est que la recherche-création, puis on ne la pratique pas de la même façon. C'est quoi ton point de vue là-dedans? Est-ce qu'il y a un lieu commun au sein d'Hexagram, une façon de penser ce que c'est que la recherche-création?
Mais peut-être je pourrais te poser la question.
Oui.
en partant. Qu'est-ce que tu penses?
En fait, de ce que je comprends en fait, actuellement de la recherche-création avec ma culture francophone, on est probablement dans un processus où la recherche fait partie intégrante du développement de la création, comme une espèce de discours, une approche discursive, en fait, sur l'élaboration du processus de la pratique, en fait. Et ce que j'ai bien compris, en tout cas, je me souviens au doctorat, c'était quelque chose qu'on discutait, c'est, ça ne peut pas être juste simplement une analyse, un discours sur l'œuvre, ça ne peut pas être une analyse critique de l'œuvre, la recherche-création. C'est généralement une espèce de dialogue qui s'établit entre un retour fondamental à l'expérimentation, à une espèce de procédé qu'on met en place, une méthodologie, si on veut, de la pratique, et ensuite l'aspect un peu plus très concret de l'acte de créer, où éventuellement ça se passe de façon alternative entre la production et puis éventuellement un retour sur qu'est-ce qu'on est en train de faire, à quelle étape on en est, est-ce qu'il y a une pertinence, est-ce qu'il y a une recherche, des disciplines qui discutent ce que je suis en train de faire, comment je me situe. Moi, c'est ce que j'en ai compris, mais on n'est pas tous d'accord là-dessus. Ça, c'est l'entente qu'on peut tous avoir, en tout cas.
Mais je pense que, quand même, il y a assez de... On est assez d'accord sur le fait que la création doit être au cœur de la démarche.
Exact.
Donc, c'est toujours le rapport avec la partie plus traditionnelle, la partie écrite, ultimement, la partie analytique, parfois... c'est quoi le rapport entre les deux? Mais je pense que maintenant, c'est clair, encore une fois, pour les conseils de recherche, qu'il faut que la création soit au cœur de la démarche. Donc, par exemple, quand on assiste au comité des pairs, on voit que c'est pas... c'est très bien défini, en fait, dans les définitions, et suivi par les comités des pairs, qu'il faut pas que ça soit quelque chose qui illustre donc, une création qui illustre un autre type de recherche ou une recherche qui finit, une recherche par rapport à quelque chose qui va être créé après. Mais comme tu dis, peut-être un dialogue pendant le processus entre une réflexion et la création. Il faut que la création soit au cœur, vraiment au cœur de la recherche et non pas quelque chose qui est un peu après ou à côté.
Tout à fait.
Et... évidemment, comme c'est la vraie vie, il y a des cas qui sont vraiment pas évidents. Oui. Mais en général, c'est assez évident, je pense. Très varié quand même. Les cas sont très variés, mais c'est quand même assez clair quand la création est vraiment au cœur d'une démarche.
Ça doit poser toutes sortes de soucis, en fait. J'essaie d'imaginer, dans le cas des thèses maintenant, création, qu'on voit... tous les cas de figure justement où la création en soi est tout le propos de la thèse, lorsque c'est juste pour des jurys d'avoir à évaluer la part de la création, la part de la recherche, il existe certainement des propositions où c'est intimement mêlé.
Oui.
Je ne sais pas comment on s'entend pour justement faire la part des choses, par exemple pour les jeunes doctorants qui n'ont peut-être jamais entendu parler de ce que c'est que la recherche-création. Je ne sais même pas si on en fait de la publicité de ces formes de thèses-là. Alors, je sais qu'il y a une culture qui est peut-être plus prégnante à Concordia. À l'UQAM, on a, au doctorat conjoint, cette proposition depuis quelques années seulement. Comment on produit ça, des jeunes docteurs qui réfléchissent à la recherche-création dès leurs études, en fait?
Mais je dirais qu'il n'y a pas de formule. Et en fait, c'est ça, pour moi, qui sort des textes, qu'une pratique... de création peut être toutes sortes de choses, en fait, et c'est ça la beauté, si on veut, de la chose, c'est que c'est une type de recherche qui ouvre des questions, qui pose des questions et qui a tendance à ouvrir et non pas à fermer. C'est justement pas analytique, mais quelque chose qui est là pour faire évoluer autant que possible une situation, si on veut dire. Donc, c'est très, très varié. Mais en même temps, je pense que cas par cas, généralement, c'est assez clair qu'on a la recherche. Il peut avoir les deux au cœur. Mais il faut juste que la création soit autant au cœur de la recherche que la réflexion.
Oui.
Et c'est quand on voit beaucoup de réflexion, beaucoup de... Bon, encore une fois, je dirais l'approche plus textuelle... analytique, historique, théorique, et peu de création, ou pas une création qui est adéquate à une création qui n'est pas assez présente, si on veut, par rapport Là, c'est vraiment la balance.
Le lien commun, il est là, il est dans la création.
Parce que même dans l'autre, si c'est juste la création, ça c'est intéressant aussi, si, et très controversé, s'il y a juste la création, mettons que...
Un artiste prétend justement faire de la recherche création à travers son œuvre.
C'est ça.
Mais il y a
donc,
pas de méthodologie.
on peut avoir de la, ça peut être des très bons artistes. Mm-hmm. C'est pas un art qui est moindre ou qui est moins bon. Mais à l'université, on veut voir les deux.
Une approche disciplinaire qui est instituée avec des normes.
C'est ça. Oui. Mais une approche disciplinaire, je ne mettrais pas trop d'emphase sur l'idée des normes.
Ah, voilà.
Mais plus qu'on veut voir cette réflexion-là. Mm-hmm. Et ça peut être fait de toutes sortes de façons, même des façons très poétiques.
Oui, alors.
Comme on a vu dans le texte d'Aaron Manning.
Oui.
Mais il faut que ça soit sérieux, approfondi, etc. Intéressant et sérieux en termes de poids.
Oui, oui.
Et à ce moment-là, c'est une démarche de recherche-création. Et je dirais que ça, c'est quelque chose qui doit se faire à l'université. Peut-être que ça va changer un jour, je ne crois pas. Mais que ça peut se faire à l'extérieur aussi, mais c'est pas exigé à l'extérieur que ça soit fait. Donc, si on va au Conseil des arts du Canada ou au CALC, je pense que c'est très bien vu de pouvoir avoir une réflexion de démarche, etc. Ça a toujours été le cas, en fait, que les artistes qui peuvent présenter leurs travaux en termes d'une démarche théorique, historique, etc., que ils ont tendance à mieux réussir. Mais c'est pas quelque chose qu'on doit faire. C'est pas exigé non plus. On peut quand même très bien réussir comme artiste sans avoir, sans beaucoup écrire, sans beaucoup analyser, sans beaucoup mettre de l'avant la réflexion.
On pourrait dire
que c'est... Mais à l'université, il faut l'avoir, c'est ça.
En fait, je pense qu'on a affaire à des artistes peut-être un peu plus intellectuels, dans le sens que la part de discours entre élaborer un texte scientifique et élaborer une œuvre avec toute la sensibilité, ça a l'air de faire référence à nos deux hémisphères du cerveau qui ont à discourir entre le sensible et le rationnel. Oui. En soi, ça crée une catégorie un petit peu particulière de recherche, enfin en tout cas... J'utilise le champ disciplinaire parce que, bien que ce soit pas un propos que tout le monde partage, on a vu un texte avec Claude Paquin qui propose, lui, en fait, une cartographie en se disant qu'il y a tellement de variétés dans ce que c'est que la recherche-création. Il soulève le fait qu'aussi, en anglais, il y a énormément de variations dans les termes art-based research, etc., qui se traduisent littéralement, selon lui, en recherche-création purement et simplement en français, qu'il élabore finalement une cartographie. En disant, ben voilà les pratiques, on voit même des recherches actions, des recherches interventions, des recherches productions. Au sens large, pour lui, c'est toutes sortes de formes de recherche création qui prennent des aspects connexes, parfois dans les sciences humaines, parfois purement et simplement dans les beaux-arts. Mais tout ceci, en fait, est quand même dans ses balbutiements, on pourrait dire. On n'a pas encore tout à fait institué une forme littéralement définie, prévisible de recherche création.
Oui.
Alors, quelles sont les formes les plus éclatées que vous ayez vues, peut-être justement, dans ces extrêmes-là?
Je voulais dire, premièrement, que je pense que c'est normal, dans un champ disciplinaire, d'avoir,
des pôles?
Bien, c'est ça, puis d'avoir toutes sortes de choses. Peut-être on sous-estime, dans les autres disciplines, à quel point c'est varié aussi, je ne sais pas.
Oui, peut-être.
Mais aussi, par rapport au texte de Louis-Claude Paquin, on se disait tout à l'heure que... il faut peut-être faire attention faut peut-être faire une distinction entre la recherche à base de pratique et la recherche création. Parce que la recherche création est à base de pratique, mais il y a des recherches à base de pratique qui ne sont pas
de la recherche création.
La création, c'est ça. Donc, ça, je pense, c'est aussi assez clair. Mais tu viens de mentionner quelque chose d'important aussi, c'est que maintenant, on accepte, surtout au FQRSC, on accepte pleinement la création qui n'est pas faite en beaux-arts par des gens qui s'appellent des artistes, mais il faut que ça soit la création et non pas un autre type de pratique.
Tout à fait. Un film, un jeu vidéo est admis maintenant.
Oui, mais ça, pour moi, ce sont des formes d'art.
Tout à fait.
J'ai pas de problème avec ça.
Mais
ça
on est d'accord là-dessus.
on peut peut-être prendre l'exemple de quelqu'un en communication qui ne se identifie pas comme artiste.
qui produit peut-être des documentaires peut-être plus
oui,
des basés sur l'ethnographie, par exemple?
Les documentaires, en fait, sont, pour les jurys de pairs, il y a souvent des questions. Ça dépend de la part de création dans un documentaire. Mais beaucoup de documentaires, en fait, c'est évident que ce sont des œuvres de création. Mm-hmm. Mais c'est peut-être plus quand, quand on travaille avec des archives. Et on fait...
L'aspect historique qui est soulevé aspect, aussi.
Où c'est vraiment très, très, très historique. Puis là, il va y avoir des questions. Et ça, c'est intéressant. En fait, ce sont des cas... Les cas limites sont toujours des cas
Ils
très intéressants.
Le centre. Oui.
Mais j'allais dire, je pensais en fait à quelqu'un comme Owen Chapman, qui a une pratique où il produit des jouets mm-hmm. pour des enfants autistes ou des enfants qui ont des difficultés. Lui, il ne se définit pas comme artiste, mais c'est quelqu'un qui travaille à partir de la création d'objets. Et c'est vraiment au centre de sa pratique. Donc, ça, je pense, mais en fait, on pourrait dire que c'est une espèce de designer, peut-être.
C'est un designer, effectivement,
oui.
peut-être.
Donc, c'est très proche.
Il définit des usages.
Oui. Mais je peux imaginer, j'ai déjà vu ça, par exemple, quelqu'un qui est sociologue et décide de faire un projet où le propos de recherche va passer par un défilé de mode, par exemple.
Une performance sociale.
Oui, performance okay. sociale. Donc, cette personne-là ne va pas dire « je suis un artiste maintenant ». Peut-être que ça ne les intéresse pas oui, d'être oui. identifiés comme ça, mais ils vont faire quelque chose, un projet très créatif.
Un événement, finalement.
Un oui. événement où le projet est vraiment bâti autour de la création au cœur.
Alors, c'est intéressant parce que là, on voit un petit peu les différentes formes que peuvent prendre une recherche-création. Et ça inclut, au sens large, la plupart des milieux scéniques, mais jusqu'au milieu de la sociologie, de la communication. Oui. Est-ce qu'il y a des univers qui ne seraient pas du tout concernés par la recherche-création? Parce que je me demande si c'est possible.
je ne sais pas.
Je n'ai pas conclu encore.
Je ne sais pas. Ça devient toujours délicat quand ce n'est pas artistique. Il y a toujours des questions, parce que la question, c'est toujours, est-ce que c'est une illustration de quelque chose d'autre? Parce qu'il faut quand même que la création ouvre des portes sans nécessairement les fermer, pour ainsi dire. Et c'est ça qu'on voit dans les textes.
Oui, tout à fait.
Donc, c'est pas quelque chose qui vient juste comme décoration
oui.
ou illustration d'un propos déjà tout fait. Oui, c'est ça. Donc, il faut vraiment que ça... je ne sais pas comment dire ça aussi bien que ça a déjà été dit dans les textes. Et comme tu dis aussi, il y a une espèce de dialogue parfois entre les deux. Je pense que Jean Dubois parle du trait d'union.
Le trait d'union entre la recherche et la création et tout se situe là.
Tout se situe là. Mm-hmm. Je pense que c'est peut-être qu'Aaron Manning aussi fait référence à l'idée de la troisième,
un discours trilogique finalement entre deux pôles et finalement l'univers qui relie ces pôles comme un tout.
Oui, donc c'est une troisième chose.
Tout à fait.
Donc ça aussi, je trouve ça intéressant.
Je me demandais si dans la forme, les artistes en général se revendiquaient... par exemple, est-ce qu'un scientifique qui élabore une recherche et qui fait preuve de créativité par... la forme curieuse que peut prendre sa recherche en cours de route et une hypothèse, un élan justement de créativité dans l'élaboration du processus scientifique. Est-ce qu'il va prôner ou revendiquer qu'il fait preuve de créativité, que c'est une création? Parce que je ne suis pas sûre que ce soit si assumé que ça par des scientifiques rigoureux. Est-ce qu'il y a un côté amoindrissant finalement pour la recherche quand on parle de création? Je ne sais pas comment c'est vu dans les univers des sciences très pures vis-à-vis des beaux-arts. Est-ce qu'il y a des... s'entendent là-dessus?
Ça, c'est une longue...
Un long débat.
Mais je dirais que c'est souvent problématique en ce moment pour les scientifiques et de adopter une posture création parce que c'est pas... parce que c'est... Je dirais que ce sont des disciplines très normées.
Oui.
Ça?
C'est peut-être moins assumé, l'intuition, la sensibilité, je sais pas.
Ah, ça dépend. Par exemple, en mathématiques, l'intuition est très assumée.
Ah, tout de même, oui, en mathématiques.
En fait, les mathématiciens sont souvent plus disposés à parler positivement d'un processus de création, justement.
Oui.
Ça dépend des disciplines, ça dépend des normes. Mais en termes d'individus, j'ai rencontré des scientifiques qui sont très, très ouverts à... En fait, de faire des recherches de création où c'est vraiment une exploration... Encore une fois, où on ouvre la boîte pour voir qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là sans savoir
a priori,
qu'est-ce qu'on va trouver.
Tout à fait.
Et c'est ça beaucoup la création, c'est de... Et comme tu dis, ça peut fonctionner par par aller-retour entre
une démarche, hypothèse, voilà.
Ou une hypothèse ou un
processus créatif.
Processus plus analytique ou plus
Je la vois vraiment comme un dialogue, mais effectivement chacun. Je pense que l'idée de la cartographie qu'a instituée Luc Claude m'interpelle parce que justement dans cette approche de cartographie, on n'a plus nécessairement dans tous les univers des approches comme celle-ci. Je me demandais, Lynn, à Concordia, il y a une reconnaissance de la recherche-création au niveau vraiment de la formation académique des étudiants depuis vraiment plusieurs décennies maintenant. Je me demandais comment, est-ce qu'il était possible de faire de la recherche-création aussi bien au deuxième qu'au troisième cycle? Est-ce qu'on peut en vivre? Est-ce qu'il y a une espèce de pérennité dans le cursus, en fait, possible en recherche-création?
Donc, la recherche-création, ça a vraiment été adopté comme terme au niveau de la maîtrise et du doctorat. Mm-hmm. Et... À Concordia, ça s'est développé au sein de deux programmes de maîtrise et doctorat interdisciplinaires qui sont un peu différents. Il y a un qui permet aux étudiants de croiser et qui requiert qu'on a trois personnes qui viennent des sciences humaines, sciences sociales et ou culture.
Pour encadrer, c'est ça?
C'est ça, pour encadrer. Mm-hmm. Mais l'autre permet de prendre d'avoir un comité de n'importe qui avec n'importe qui, c'est-à-dire science, art, donc c'est plus large. Okay. Donc il a fallu essayer de définir des pratiques à l'intérieur de ces programmes-là. Donc je pense que la notion de recherche-création, qui pour moi, vraiment est venu du FQRSC. C'est peut-être pas le cas, mais je sais que pour moi, c'était vraiment à ce moment-là, et ça fait assez longtemps, qu'avec Louise Dandurand, probablement, que ça s'est présenté comme idée. Donc, ça a été un outil de pensée.
Mm-hmm. Penser des programmes, en fait.
Penser des programmes. Mm-hmm. Et à fur et à mesure qu'on a eu des vrais étudiants, avec des choix de projets de thèse, mm-hmm. etc., on a pu essayer de développer, entre nous les profs et entre les profs et les étudiants, des façons de faire. Okay. Donc, je pense que qu'est-ce qui est fascinant, c'est que chaque fois, il faut redéfinir l'emphase. On ne redéfinit pas la chose, mais on a juste l'emphase. Mais c'est peut-être aussi le cas dans d'autres disciplines, c'est-à-dire les projets sont pas... La façon de faire n'est pas identique.
Communication, c'est très vrai également.
Oui.
Mais je prends le cas du doctorat conjoint pour l'avoir suivi moi-même, puis tous les questionnements qui ont émergé à partir de 2001, parce que j'étais une des premières à suggérer qu'on ait un cheminement logique entre le deuxième cycle, on faisait de la recherche-création, un mémoire recherche-création, en multimédia, je me souviens à l'époque, et à ce que peut-être une possibilité de le poursuivre au troisième cycle. Ce n'était pas encore institué, donc les débats, j'y ai assisté, et c'était des débats qui quand même se sont étendus dans le temps, puisque les toutes premières thèses création, on est donc 18 ans plus tard, émergent maintenant. C'est un texte d'ailleurs de Cynthia Nourry qui revient sur la question. Et les premières formes aussi qui sont discutées dans cette université un petit peu plus francophone et qui avait... finalement fait une place dans un département donc, de communication à la recherche-création. Ce qu'on a vu, c'est que tout le monde ne s'entendait pas sur ce que ça pouvait être. Il y avait beaucoup d'angoisse et d'incertitude. Est-ce que le fait de faire une œuvre, ça enlève le côté sérieux de la démarche de recherche? Comment on élabore la contribution de recherche vis-à-vis d'une production qui est déjà conséquente? Et les étudiants arrivaient avec des constats qu'ils avaient l'impression de faire double tâche, en fait, d'avoir élaboré une énorme thèse classique au sens propre du terme, puis finalement d'avoir eu à annexer une production à côté qui, finalement, avait peut-être alourdi un peu le cheminement, qui les avait enrichis au niveau personnel. Donc, ce que je constate de tout ça, c'est que ce n'est pas un processus qui est très couru ou qui est encore très vulgarisé ou connu.
Oui.
On espère que ce dossier va peut-être donner lieu à des intuitions comme ça. Mais est-ce que c'est un peu moins lourd, peut-être, à Concordia?
Mais ça a déjà été très lourd.
Ah.
C'est parce que je pense qu'un nouveau bébé essaie toujours de faire ses preuves. Donc, on fait le double. C'est exactement ça. Au début, c'était peut-être pas tout à fait le double, mais presque. Mm-hmm. C'est-à-dire, les gens faisaient gros projets de création et une thèse presque aussi longue qu'une thèse normale. Petit à petit, on a vraiment insisté sur le côté création. Et ça s'ajuste maintenant, c'est beaucoup mieux. Même moi, j'ai insisté beaucoup dernièrement, quand on fait l'examen de synthèse, qu'une des questions, c'est la création. C'est
la pratique.
La pratique, déjà. Exactement. Okay. Donc, par exemple, si on a trois questions, ça se fait différemment dans les deux programmes, mais le programme où je travaille le plus, on a un examen de synthèse avec trois questions, un pour chaque champ. Donc, à ce moment-là, la troisième question n'est pas une question écrite. C'est une présentation de projet, c'est une présentation plus comme dans une maîtrise de Beaux-Arts, si on veut, une présentation de la pratique. Ça peut être un PowerPoint qui montre la pratique avec qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qui va être fait, des références dans le milieu, etc. Mais j'insiste. Et je pense que petit à petit, on comprend qu'il ne faut pas que ça soit le double, il faut que ça soit...
homogène dans le processus. Oui,
et il faut vraiment que si on dit que c'est recherche-création, que la création prenne la place, la moitié de la place, et qu'on ne fait pas le double du travail.
Une reconnaissance du temps qui est imparti à ça.
En fait, ça, pour moi, c'est très lié à la difficulté de l'interdisciplinarité.
Oui.
Par exemple, au début, quand on faisait ces... surtout les doctorats, rendus à la défense. Est-ce qu'on dit la défense? Non, c'est l'examen de...
Ah, pardon.
C'est quoi le...
La défense, la soutenance de
la
thèse.
Soutenance,
rendu à la soutenance de thèse.
C'est ça. Donc, rendu à la soutenance de thèse, on avait souvent 3 ou 4 experts.
Oui.
Et chaque expert veut que la personne soit complètement approfondie dans son domaine. C'est-à-dire, il faut que l'étudiant connaisse tout l'histoire du sujet ou la psychologie, etc., comme si c'était un étudiant qui faisait seulement ça. Mais quand on fait un doctorat interdisciplinaire, on ne peut pas devenir expert même...
C'est transversal,
c'est latéral, et ça n'est pas vertical, si on veut. Mais il faut vraiment apprendre à voir cette chose comme ça, voir en quoi c'est une espèce de troisième chose.
Oui, je comprends.
C'est pas la même chose que de faire trois verticales.
C'est un changement un peu de paradigme pour les évaluateurs, de savoir est-ce que je peux évaluer justement qu'il y a déjà une maîtrise suffisante du vocabulaire et de la réalité de ma discipline, sans exiger qu'il y ait une maîtrise et une innovation totale dans ce domaine-là.
Exactement. Et c'est comment ces connaissances-là sont utilisées par rapport à les autres connaissances.
Bien sûr.
Comment le tout paraît, comment ça fonctionne ensemble.
Je me demandais, en termes de contribution sociale, est-ce que la recherche-création a des exemples flagrants dans les dernières années de travaux qui ont abouti, qui ont mené à un bouleversement social. Je me demande quelle forme concrète ça peut prendre pour le public dans la rue, la recherche-création. Est-ce qu'on a des exemples de ça? Parce que ce n'est pas toujours très parlant, ce n'est pas très connu.
Moi, je dirais que comme la recherche-création est l'art avec une réflexion, la partie art passe. C'est un des avantages et c'est un des côtés très intéressants avec la recherche-création à l'université. C'est une façon de faire la recherche qui est très accessible au public parce que la partie création est là.
Elle aide, elle soutient en fait le discours.
Elle
vulgarise peut-être un petit peu
la
recherche.
Ça dépend.
Oui.
Ça dépend des pratiques.
J'étais en train de me dire, en fait, on aurait pu conclure un peu notre réflexion commune sur la recherche-création en réfléchissant à des formes possibles. Par exemple, on est en train d'élaborer avec Louis-Claude, justement, une cartographie qui serait vraiment le pendant création à sa recherche, à son texte. Donc, on va peut-être élaborer, justement, avec quelque chose d'immersif, un univers qui permettrait de se plonger dans les différents champs disciplinaires de la recherche-création. Littéralement, c'est un site internet avec immersion VR en réalité virtuelle. Et on va évoluer dans des espèces de dômes où on verra tous les termes en forme de réseau finalement, et évoluer justement pour voir comment la recherche-création peut prendre une forme performative, peut-être en sociologie justement, et comment par exemple dans ce domaine-là, une recherche ethnographique peut être innovante. Donc on va voir un petit peu comment on évolue. Et je pense que c'est intéressant quand justement on a des textes comme ça qui sont des apports à la recherche, lorsqu'ils prennent une forme concrète d'œuvre, ça donne peut-être un bon écho ou une bonne idée de ce qu'on pourrait mettre en œuvre en termes de recherche-création. Mais je pense que de ton côté aussi, il y a des événements qui surviennent sous peu avec des propositions intéressantes de jumelage de science et de création.
Oui, j'allais juste revenir comme conclusion à l'idée que ça pourrait peut-être s'étendre la recherche-création aux scientifiques.
Oui,
dans
on
les
va
sciences,
faire ce vœu-là.
Cette question, est-ce que c'est possible? Il y a un très beau projet qui est en train de se former en ce moment entre une artiste ici et quelqu'un qui travaille avec les algues en sciences. En fait, c'est un ingénieur. Et les deux vont travailler ensemble pour faire des œuvres sonores avec les algues. Donc, et je pense que pour les deux, il y a un côté, les deux trouvent leur part, si on veut, parce que c'est pas, le problème souvent avec ces jumelages, c'est que une personne va servir l'autre. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment une collaboration. Les deux vont avoir la chose qu'ils veulent avoir pour leur recherche, vraiment. Donc, je pense qu'ils s'en viennent. Il y a toutes sortes de choses très intéressantes qui s'en viennent.
Je pense que c'est une belle conclusion de se dire que peut-être que la recherche-création, lorsqu'elle donne lieu à des collaborations avec des chercheurs ou des artistes de champs disciplinaires différents, finalement, elle favorise la synergie. Donc,
c'est pas facile.
C'est pas simple, mais c'est un objectif
qu'on
souhaite.
Oui, c'est ça.